bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure dans la grande table d'été, nous parlerons des documentaires qui parlent de création, juste avant de faire le portrait de Florent de la Tulée. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction, présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Sans céder à la psychose, le gouvernement invite les recteurs d'académie et les préfets à des consignes de prudence dans les écoles. À une semaine de la rentrée dans un contexte post-attentat, trois ministres pas moins présentent leurs recommandations rue de Grenelle où se trouve Hakim Kasmi. Quelle laïcité souhaitent les nombreux maires de stations balnéaires qui ont pris cet été des arrêtés dits anti-burkini? Le champ de ces arrêtés municipaux est si large que les policiers s'en prennent aussi au voile dans l'espace public. Ce sera le dossier de cette édition. Au moins 38 morts après le violent tremblement de terre survenu la nuit dernière dans les montagnes du centre de l'Italie. Et puis l'armée turque pénètre pour la première fois en territoire syrien. Mais d'abord, cette histoire de guerre économique, cette fuite de 22 000 pages de documents secrets révélés par un journal australien, l'Australie à qui la France et son constructeur naval, la DCNS, a vendu des sous-marins récemment au printemps. C'était un méga contrat. Là, il ne s'agit pas de cette vente, mais de celle passée précédemment avec l'Inde. Les plus hautes autorités françaises se sont saisies de l'affaire, explique ce matin en ces termes un porte-parole du groupe DCNS. Les documents divulgués détaillent les capacités de combat des sous-marins Scorpène, présenté Thomas Schoener comme l'un des meilleurs au monde.
Oui, ces documents détaillent le fonctionnement des sondes. 500 pages sont consacrées également au système de lance-torpilles. Cela peut contrarier évidemment l'armée indienne. Cela veut dire que des sociétés, des pays savent comment fonctionnent leurs sous-marins. En revanche, d'un point de vue technique, il faut relativiser cette fuite, en tout cas selon Jean Guinel. Il est journaliste spécialisé dans les questions de défense.
Les caractéristiques qui sont diffusées de ces bâtiments qui sont d'une conception qu'à une quinzaine d'années n'ont plus rien à voir avec les capacités des bâtiments d'aujourd'hui. Les progrès sont les mêmes que ceux de téléphones portables en 15 années. C'est pas les bijoux de famille, ça. Les bijoux de famille, ce sont les lignes de code, les capacités techniques des ingénieurs français.
En revanche, une fuite de cette ampleur pose un problème de crédibilité pour des CNS et pour la France, surtout dans un marché, celui des sous-marins, qui est ultra concurrentiel.
Le savoir-faire d'un État capable de vendre des technologies comme celle-là, il n'y a plus beaucoup de pays qui sont capables d'en faire. Il y a les Allemands, les Russes, les Suédois, les Français et les Japonais. Si les Français sont déconsidérés sur le marché des sous-marins, ça laisse beaucoup plus de place pour leurs concurrents.
Et d'ailleurs, des CNS parlent ce matin de cette fuite comme un des outils de la guerre économique que se livrent les différents pays. En avril, l'Australie avait annoncé débuter des négociations exclusives avec des CNS pour la construction du Barracuda, un sous-marin nouvelle génération. Ce matin, le Premier ministre australien a voulu préciser que ce modèle était totalement différent que du Scorpène.
Thomas Schoener, une semaine avant la rentrée scolaire, pas moins de trois ministres présentent depuis une heure les mesures de sécurité à adopter dans tous les établissements scolaires. Il y a moins d'un mois, une lettre était parvenue au recteur d'académie et au préfet fixant les consignes. On retrouve rue de Grenelle, Hakim Kasmi. Vous avez suivi pour nous, Hakim, cette conférence. Quel changement alors pour les 64 000 établissements scolaires de France ?
Et Ludovic, une conférence de presse qui vient de s'achever à l'instant ici à Rue de Grenelle au ministère de l'Éducation. Une conférence marquée bien par la signature d'un protocole d'accord avec de nouvelles mesures de sécurité. Alors quelles sont-elles ces mesures? Eh bien cela commence tout d'abord par des patrouilles mobiles qui devront surveiller les établissements scolaires dès la rentrée pour y parvenir, car on sait aujourd'hui les forces de sécurité sont déjà très mobilisées avec les opérations Sentinelles. Eh bien le gouvernement compte sur notamment les réservistes, notamment au niveau de la gendarmerie, et pas moins de 3000 gendarmes réservistes seront donc mobilisés pour ces tâches. Autre mesure annoncée aujourd'hui, eh bien, la continuation des exercices de sécurité. Ils existaient déjà depuis un an, notamment des exercices de confinement, mais avec cette fois une particularité, un nouvel exercice, un exercice spécifiquement dédié aux attentats qui devra être assuré, eh bien, d'ici les vacances de la Toussaint dans chaque école. Enfin, eh bien, Jadol Belkacem a aussi insisté sur la formation aussi des cadres de l'éducation nationale qui seront formés notamment dans les écoles de gendarmerie en France, comme à Saint-Astier ou encore en région parisienne à Melun. 500 cadres devront être formés en cas de crise ou d'attaque terroristes dans les écoles. Autre mesure annoncée aujourd'hui, elle est financière cette fois, puisque 50 millions d'euros supplémentaires seront alloués aux collectivités, notamment pour les travaux de sécurisation via le fonds interministériel de prévention contre la délinquance. Alors cela suffira-t-il? Pas sûr, les syndicats dénoncent déjà aujourd'hui un manque de moyens. Enfin, dernière mesure annoncée aujourd'hui, elle concerne le brevet de secourisme que tous les élèves de 3e devront passer cette année, soit 1,2 million d'élèves.
Notre spécialiste éducation Hakim Kasmi en direct rue de Grenelle à Paris. Merci aussi Alexandre Abergel aux moyens techniques. Je vous en parlais dans les titres. Quelle laïcité souhaitent les maires des communes balnéaires qui ont pris successivement cet été des arrêtés contre le burkini, cette tenue de bain intégrale, dernier cri de la mode islamique. Jour après jour, les récits se multiplient, preuves à l'appui, photos et témoignages de femmes en simple voile, contrôlées et verbalisées d'une contravention entre 11 et 38 euros. Là, sur une plage de Cannes ou une plage de Nice, relayée abondamment sur les réseaux sociaux comme dans la presse étrangère. Le Daily Mail, par exemple, ce matin, outre-Manche, étale ses photos de policiers lourdement équipés et armés contrôlant une femme voilée endormie sur la plage en contrebas de la promenade des Anglais. Commentaire politique d'abord. Écoutez ce qu'en disait ce matin chez nos confrères d'Europe 1 au micro de Jean-Pierre Alcabache, le sénateur Les Républicains François Baroin, soutien dans la primaire de la droite de Nicolas Sarkozy.
Moi, j'ai apporté mon soutien à tous les maires qui ont pris ces arrêtés municipaux sur une base qui est à la fois une logique pure et une logique pratique, qui est que nous sommes dans un climat qui fait que l'addition des attentats a créé une peur, une inquiétude. Et la question du burkini, elle est une question d'ordre public, c'est-à-dire celle qui porte le burkini, c'est-à-dire l'addition du bikini et de la burqa, c'est-à-dire au fond un signe ostensible d'une appartenance à une pratique religieuse inspirée malgré tout des salafistes que nous ne voulons pas voir sur le territoire de la République,
les frères musulmans,
peuvent provoquer des troubles à l'ordre public. Et il faut lire les arrêts des tribunaux administratifs, et la décision du Conseil d'État cette semaine sera évidemment importante puisque la plus haute juridiction administrative aura à connaître de ce sujet. Alors j'entends bien les arguments sur les zones de frontement ou de confrontation à l'égard du principe de laïcité, de l'application, la différence entre l'espace privé et l'espace public. Il s'agit surtout d'un élément de terreur aujourd'hui qui peut créer des troubles à l'ordre public. Nous devons donc agir collectivement, nous devons soutenir ces maires courageux.
François Baroin, question d'ordre public, disait ce sénateur de droite. Le Conseil d'État, disait-il aussi, se prononce. Ce sera demain après-midi. Il fixera la jurisprudence valable sur tout le territoire. Willy Moreau a sollicité le commentaire d'un spécialiste des questions de laïcité, Philippe Portier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études.
Ce qui caractérise la laïcité, lorsque on se reporte à la loi de 1905, c'est essentiellement la liberté de conscience, se prolongeant en liberté de manifester son appartenance religieuse, à une condition cependant, c'est que l'ordre public ne soit pas mis en péril. Alors, ce qui est en train de se passer, d'une certaine manière, c'est une réflexion autour du concept d'ordre public. Est-ce que le fait de porter un voile ou un burkini sur une plage remet en cause l'ordre public existant? On est là, semble-t-il, confronté à une extension de l'appréciation du désordre public. Il semble bien que les municipalités, que les juges de première instance surinterprètent les troubles, les risques de troubles à l'ordre public provoqués par le port des insignes religieux auxquels vous faites référence. L'idée, si vous voulez, c'était que la liberté était première et qu'il fallait des menaces graves, très grave, pour que la manifestation d'une liberté puisse être limitée. Dans une époque antérieure marquée davantage par le libéralisme, il est probable que l'appréciation des troubles causés à l'ordre public aurait été beaucoup plus mesurée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Philippe Portier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, répondait à Willy Moreau. D'heure en heure, le bilan s'alourdit. Au moins 38 morts selon le dernier décompte de la protection civile italienne après le violent tremblement de terre survenu dans les montagnes du centre de l'Italie à 140 km au nord-est de la capitale. Il était 3h30 du matin. Des dégâts sont signalés en Ombrie, dans le Latium, dans les marches italiennes. Xavier Sartre, vous êtes en direct de Rome. On parle de séisme d'une magnitude supérieure à 6.
Oui, le séisme qui a frappé le centre de la péninsule a été presque aussi violent que celui qui a dévasté en 2009 la ville de L'Aquila, où périrent près de 300 personnes. La secousse principale a été ressentie jusqu'à Rome, réveillant de nombreux habitants. L'amplitude du tremblement de terre a provoqué ainsi d'énormes dégâts dans plusieurs villages de montagne. Les images et les témoignages recueillis montrent clairement que certaines zones sont même rasées jusqu'au sol. Les rues sont recouvertes de gravats, ce qui rend la progression des secours très difficile, en plus de la difficulté d'accéder au lieu même du drame. Alors, les habitants fouillent à main nue, aidés par 500 pompiers environ, des volontaires de la protection civile et des militaires sont même arrivés de la caserne de Rieti, la principale ville de la région, pour donner un coup de main.
Et le bilan, Xavier, augmente d'heure en heure. On parle d'au moins 38 morts et des nombreux disparus.
Oui, déjà 38 comme vous l'annoncez, et le bilan pourrait être encore plus élevé, mais la protection civile se veut très prudente et ne veut même pas annoncer de chiffres précis concernant le nombre de blessés. Ces villages, il faut le savoir, l'hiver compte peu d'habitants, mais l'été, les enfants reviennent passer les vacances chez leurs parents et certains hameaux pouvaient accueillir plusieurs centaines de personnes, comme l'a notamment précisé le président de la région des Marches. Or, quand on voit l'état des maisons qui ne sont plus qu'un amas de gravats et de poussière, on peut être inquiet quant au bilan final. En attendant, eh bien, chacun fouille les décombres dans l'espoir de retrouver des survivants.
Merci Xavier Sartre en direct de Rome. C'est un fait inédit au-delà d'une rapide incursion pour sauver un mausolée ottoman. C'était en février 2015. L'armée turque est entrée tôt ce matin en Syrie. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour.
C'est l'opération bouclier de l'Euphrate avec en soutien aérien les avions de combat, au sol l'armée turque et des forces spéciales. L'objectif, chasser l'organisation État islamique de la ville frontalière de Jarablus. Attention, prévient le président turc Erdogan, cette opération vise aussi les milices kurdes.
Oui, pas question de laisser les forces kurdes déloger elles-mêmes les djihadistes de Jarablus, comme elles l'ont fait à Manbij il y a quelques semaines. C'est la hantise des autorités turques. Ankara cherche absolument à éviter que de progression en progression, les combattants kurdes très actifs dans cette région frontalière puissent constituer toute une bande frontalière, la fameuse continuité territoriale kurde de Kobané à Jazire et Afrin, tant redoutée par les autorités turques. Si les rebelles kurdes activent dans le secteur avec l'appui des États-Unis, ils ne sont pas moins considérés comme des terroristes alliés du PKK par Ankara, d'où la nouvelle dimension en fait de cet engagement turc. Deux batailles sont menées en même temps, une espèce de deux en un qui vise donc, vous le disiez, les positions du groupe État islamique et celles des combattants kurdes. Sur le terrain, des chars sont entrés en Syrie, en direction de Jarablus, une localité de 30 000 habitants. La petite ville frontalière turque de Karkamis, de l'autre côté, a été évacuée de ses habitants par mesure de sécurité. L'aviation turque est également en action, mais là où l'exercice devient plus difficile, c'est lorsque la Turquie indique qu'elle mène cette bataille avec la coalition internationale anti-djihadiste. Or, je le disais, les États-Unis soutiennent d'une certaine manière les forces kurdes et les considèrent comme des alliés dans leur lutte contre l'EI. En tout cas, cette offensive est lancée le jour où le vice-président américain Joe Biden est à Ankara pour discuter de la crise syrienne. Et en parlant de cette offensive, un des responsables kurdes prévient que la Turquie, dans le bourbier syrien, sera vaincue comme le groupe État islamique.
Nabila Hamel, de la Syrie, mais aussi de l'Ukraine, il sera question lors de la rencontre américano-russe de vendredi. On l'a appris ce matin, John Kerry rencontrera son homologue Sergueï Lavrov. Ce sera à Genève. Kerry, qui n'a donc pas fait le choix de se rendre en Turquie depuis le coup d'État manqué du 15 juillet, Ankara fustige Washington pour son manque de soutien pendant l'été. Le secrétaire d'État à la Défense, Joe Biden, vient d'atterrir en Turquie. À Tokyo, c'est la première fois depuis 5 ans qu'autour d'une même table, on retrouve les Japonais, les Chinois et les Sud-Coréens. Des sujets de crispation dans la région sont légion. Et c'est ce moment que semble avoir choisi le voisin nord-coréen pour se manifester. Hier soir, un missile tiré depuis un sous-marin s'est écrasé 500 km plus loin. Et donc, pour la première fois, dans l'espace de détection aérien du Japon, tout proche des côtes. À Tokyo, la correspondance de Frédéric Charles.
Si le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a accepté de rencontrer à Tokyo ses homologues japonais et sud-coréens, eh bien c'est parce qu'un réseau d'alliances est en train de se former dans la région en réaction à la pression de Pékin en mer de Chine méridionale, en réaction aussi à la décision de la Corée du Sud de déployer sur son territoire un système antimissile américain. Pour la Corée du Sud, la menace nucléaire nord-coréenne est plus grave que jamais. La preuve par ce tir de missile nord-coréen qui a atterri dans la zone d'identification aérienne du Japon. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, espère seulement que les tensions dans la péninsule coréenne ne vont pas s'aggraver. La Chine a peu d'influence sur les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Pour Pékin, cette menace nord-coréenne, c'est le problème des États-Unis. Les États-Unis auraient pu négocier avec la Corée du Nord, il y a une quinzaine d'années, son renoncement à l'arme atomique en échange de gages américains pour sa sécurité. Ce qui inquiète davantage la Chine, c'est le déploiement d'un bouclier antimissile américain en Corée du Sud. Et ce réseau d'alliances qui s'établit dans la région entre les États-Unis, le Japon, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, face à l'expansionnisme chinois en mer de Chine méridionale. Les États-Unis signalent que les questions territoriales entre la Chine et ses voisins doivent se régler dans un cadre multilatéral. La Chine s'y oppose, mais elle devrait accepter l'organisation d'un sommet des dirigeants chinois, sud-coréens et japonais avant la fin de l'année pour discuter justement de ces contentieux territoriaux entre voisins.
La correspondance de Frédéric Charles à Tokyo. On reste en Asie avec ce séisme de magnitude 6,8 que l'on vient d'apprendre dans le centre de la Birmanie. Une magnitude légèrement supérieure à celui ressenti en Europe la nuit dernière. On en parlait dans ce journal en Italie. Donc je vous rappelle le bilan provisoire d'au moins 38 morts et de très nombreux disparus. La météo de votre après-midi, encore du soleil. C'est seulement sur la Bretagne et le Cotentin, nous dit Météo France, que le ciel risque de devenir cet après-midi menaçant avec un petit risque d'averse. Les températures maximales jusqu'à 36-37 degrés dans le sud-ouest, le centre et l'Île-de-France. L'Île-de-France où demain est attendu un pic de pollution. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal.